Kiosque Magazine.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous allez bien ce début de nouvelle année 2015?
Eh oui, déjà oui. 2015.
Eh oui, la voix que vous entendez, c'est la voix de Franceline Vieillard. Et celle que vous entendez maintenant, c'est Serge Hamelin. Roger est resté poigné dans la rive sud.
Oui, c'était un peu dangereux. C'était un peu dangereux de venir jusqu'ici ce matin.
Ouais. Alors, donc, nous allons vous entretenir, comme à l'habitude, dans cette revue de Kiosque Magazine. Nous allons vous entretenir avec des sujets que nous avons glanés, pour utiliser l'expression de notre cher Roger, dans des revues. Quelles revues avez-vous utilisées?
Alors, mon premier article portera sur le volontourisme, certaine forme de voyage, que j'ai trouvé dans la revue Virage de l'automne 2014.
Excellent. Est-ce que ça a rapport avec le volontourisme quand on a notre voyage?
Non, c'est une forme, vous verrez, une forme de tourisme. Écoutez, vous verrez la suite.
On va écouter certains.
Et puis, le deuxième article que je lirai en fin d'émission portera sur la conduite assistée avec des petites... pour faciliter la tâche des conducteurs. Oh, vous allez voir aussi.
C'est bien, hein, on est curieux. Voilà. Et moi, je vais vous parler de Rose Vallant dans la revue Bel Âge. Ensuite, on va aller dans la revue Urbania. Oh là là, quelle revue pour l'annuel. C'est une revue annuelle. Elle est épaisse. Il y a des articles très intéressants sur l'anonymat. Alors, donc, il y aura des articles sur l'espion. Et pour disparaître, pour 46 000 $ par mois, on peut vous faire disparaître si vous payez 46 000 $. C'est bon, hein? Ensuite, on ira dans la revue Virage, où on va parler de la soixantaine. On a une émission qui risque d'être intéressante.
Absolument.
Alors, je pars.
D'accord.
On y va? Mais avant, on va saluer notre ami Jean-Sébastien en studio.
Hein, bonjour, Jean-Sébastien.
Qui va nous aider. C'est bon? Pour la mise en onde. Rose Vallant, ça vous dit quelque chose, Franceline? Rose Vallant?
Oui.
Alors, c'est un article qui est paru dans la revue Bel Âge de décembre 14. Ça a été écrit par Michel Dubreuil. Au péril de sa vie, l'historienne de l'art Rose Vallant participe durant la Deuxième Guerre mondiale au sauvetage de près de 60 000 œuvres appartenant au musée français et aussi pour une bonne part à des collectionneurs juifs. Cette héroïne discrète, mal connue, a néanmoins été célébrée par le cinéma américain une première fois dans The Train en 1964. Ça, je ne savais pas. Un film basé sur le front de l'art, ses mémoires publiées en 1961 et plus récemment, ça je le savais, dans The Monuments Man 2014, un film de George Clooney où Kate Blanchett incarne l'héroïne. Rose Vallant naît le 1er novembre 1898. Alors, c'est pas d'hier, hein? Près de Grenoble. Fille de maréchal Ferrand, elle est incitée par sa mère à poursuivre ses études. Et Rose collectionne les diplômes et les prix. Et grâce à une bourse... Alors, imaginez une femme à cette époque-là, hein, qui collectionnait les prix. Elle entre à l'école normale de Grenoble, puis à l'école des Beaux-Arts de Lyon, à celle de Paris et enfin à l'école du Louvre. En 1932... C'est comme attachée de conservation bénévole. Pour gagner sa vie, elle enseigne l'histoire de l'art, que Rose Vallant fait son entrée au musée du Jeu de Paume consacré aux collections des écoles étrangères contemporaines. Il lui faudra attendre 9 ans avant d'être rémunérée. Bien que personnellement attirée par l'art classique, au Jeu de Paume, Rose est plongée dans l'univers de la peinture moderne. Dans les années 30, on y organise des expositions d'art d'avant-garde et en tant que seule attachée permanente, elle collabore à leur préparation et à la rédaction des catalogues. À la même époque, la montée du nazisme en Allemagne inquiète la hiérarchie administrative française. Dès 1936, la direction des musées nationaux repère des caches. Dans des châteaux, des abbayes, des monastères qui pourraient servir d'abri aux œuvres d'art en cas de conflit. Chaque musée doit dresser la liste de ses œuvres, leurs priorités en cas d'évacuation, les itinéraires, le personnel, emballeurs, chauffeurs, etc. Et au Jeu de Paume, Rose Vallant participe aux exercices d'évacuation. On ne sait jamais. Hitler n'a-t-il pas déjà déclaré que l'art moderne est décadent, juif, dégénéré et amoral, lorsqu'en mars 1939, à Berlin, les nazis brûlent 5 000 œuvres dégénérées, la direction des musées nationaux passe à l'action. Dans la nuit du 28 août, un premier convoi d'œuvres d'art quitte le Louvre. Destination, le château de Chambord, qui deviendra la plaque tournante de la distribution vers les caches de l'ouest et du sud de la France. La Joconde, dans une caisse identifiée MNLP numéro 0, entreprend le voyage incognito. Mona Lisa déménagera 10 fois pendant l'occupation. Hein, vous ne saviez pas ça, hein, Franceline?
Non, non, non.
Entre août et décembre... Eh bien, moi non plus. Entre août et décembre 1939, une quarantaine de convois feront le même trajet. Le 1er septembre, une partie de la collection permanente du Jeu de Paume prend à son tour le chemin de Chambord. Rose Vallant procède à l'évacuation de près de 300 peintures parmi les plus significatives de l'École de Paris. Les collections publiques échapperont à la mainmise allemande, mais le sort des collections privées appartenant à des Juifs et à des francs-maçons sera tout autre. Le 14 juin 1940, à l'aube, l'armée allemande entre dans Paris. À la fin d'octobre, Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux, donne l'ordre à Rose Vallant de se maintenir coûte que coûte au Jeu de Paume. Le ERR, service allemand chargé de s'emparer des œuvres dans les territoires occupés, c'est le ERR, vient de réquisitionner le musée. Près de 400 caisses d'œuvres d'art confisquées à l'été 1940 aux grands collectionneurs juifs et qui jusqu'alors étaient stockées dans l'ambassade d'Allemagne et au Louvre viennent d'être transférées au Jeu de Paume. Le musée, dont les œuvres ont été évacuées ou rangées au sous-sol, se transforme en une immense gare de triage d'où partiront vers l'Allemagne entre avril 1941 et juillet 1944 au-delà de 4000 caisses d'œuvres d'art. Rose, qui chaque matin doit présenter un laissez-passer pour entrer dans son musée, est durant l'occupation la seule responsable française au Jeu de Paume. Et aux premières loges, elle assiste au pillage des œuvres d'art par les nazis. Elle est révoltée. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Alors Rose ne ressemble en rien à Kate Blanchett, qui incarne son personnage à l'écran. Grande, 1m76, timide, réservée, l'air sévère, les cheveux ramassés en chignon, de grosses lunettes rondes, vêtue sans coquetterie, elle n'inquiète pas les Allemands avec ses allures de vieille fille, plutôt sèche, qui possède une mémoire visuelle phénoménale et qui parle allemand. Alors, voyez-vous, alors si on va un peu plus loin, à la fin de l'article, parce qu'on n'aura pas le temps de tout la lire, alors, en mars 1953, Rose Vallant est enfin nommée conservateur des musées. C'est après la guerre. Elle a 54 ans et, contrairement à ce qui pourrait laisser présager, cette nomination ne lui confie ni musée, ni collection, ni organisation d'exposition. Elle sera cantonnée dans des travaux d'intendance, travaux qu'elle mènera tout en continuant de s'intéresser jusqu'à sa mort à la restitution des œuvres pillées. Et le 1er janvier 1969, à 70 ans, Rose Vallant part à la retraite. Isolée et marginalisée à la fin de sa vie professionnelle, confinée dans le petit bureau du Louvre qu'elle garde malgré son départ à la retraite, elle est tolérée car irremplaçable, mais redoutée pour son caractère et son côté monomaniaque. Alors, c'est dans le complet anonymat que Rose Vallant passera les dernières années de sa vie. Elle qui, avant d'être conservateur des musées nationaux, avait été capitaine de l'armée française, lieutenant-colonel de l'armée américaine et l'une des femmes les plus décorées de France, officier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, médaillé de la Résistance, décorée par le Medal of Freedom des États-Unis, officier du mérite de la République fédérale. Elle s'éteint solitaire le 18 septembre 1980.
Alors, un autre article totalement différent qui va parler d'une certaine forme de tourisme. Ça s'intitule « Voyage au cœur du volontourisme » et c'est publié dans la revue Virage, la revue de la FADOC, de l'automne 2014. Alors, c'est à la rencontre de 4 bénévoles québécois qui sont au Burkina Faso. Ils sont âgés de 50 ans et parfois bien plus. Ils partent pour plusieurs semaines dans un pays lointain afin de vivre et travailler bénévolement en immersion complète avec les gens du pays. J'ai rencontré au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, un groupe de Québécois participant à un tel voyage solidaire. Au cœur de la petite ville en pleine expansion qu'est Saaba, dans la banlieue de Ouagadougou, le centre Colloque Naba fait figure de havre de paix. Colloque Naba est un centre communautaire créé il y a une douzaine d'années par une Danoise. Il compte une soixantaine de membres actifs issus des environs et comprend plusieurs ateliers. Tissage, couture, fabrication de produits à base de beurre de karité, jardin potager et fruitier, rucher, menuiserie, ainsi qu'une boutique, des chambres et une table d'hôte. Les quatre membres québécois du groupe séjournant au Burkina Faso dans le cadre des voyages solidaires organisés par le cégep Marie-Victorin de Montréal sont hébergés dans des familles à quelques kilomètres de leur lieu de travail. Ils y sont logés et nourris, sauf le midi. À 8 heures chaque matin de la semaine, Claude et Yves arrivent à vélo sur leur lieu de travail. Aussitôt, ils s'emparent de leurs outils, une brouette, une barre à mine, des pelles, une pioche et se dirigent vers le chantier. En attendant qu'arrive leur patron, ils préparent le ciment servant à bâtir le mur d'enceinte du centre communautaire. Toute la journée, ils œuvrent sous la direction de Soumalé, le maçon. Ici, il fait environ 40 degrés centigrades, mais l'air est très sec, ce qui rend le climat supportable. À 10 heures, Claude et Yves marquent une pause à l'ombre, le temps de boire un verre de jus de bissap, une infusion de pétales d'oseille de Guinée. Ils me font part de leurs observations par rapport à leur tâche d'aide-maçon qui n'a strictement rien à voir avec leurs expériences professionnelles et qu'ils ont accepté d'accomplir durant leur séjour. Tous deux sont de la région montréalaise. Yves était employé dans un centre éducatif et Claude, fonctionnaire. Danielle, une Montréalaise, œuvre, elle, avec les femmes du centre Colloque Naba. Selon les besoins du moment, elle est tantôt à l'atelier de beurre de karité, tantôt à l'atelier de couture. Anciennement chargée de l'administration dans une compagnie montréalaise, Danielle passe son temps à préparer des centaines de ses sacs pour téléphone cellulaire, tout en échangeant avec les couturières. « Cela prend de l'humilité et de la simplicité », me dit-elle. De son côté, Micheline, une autre Montréalaise, met à profit sa formation médicale pour œuvrer auprès de jeunes dans un centre pour sourds-muets d'un autre secteur de Saaba. Vers midi, nous nous retrouvons les quatre, Daniel, Claude, Yves et moi, pour le repas servi à la table d'hôte par Salissa et Pascaline. Le menu complet est toujours succulent et les plats sont copieux, reconnaissons-nous en cœur. Régulièrement, Bernadette Cabré, la coordonnatrice du programme pour le compte du cégep Marie-Victorin au Burkina Faso, passe rendre visite aux volontaires québécois. C'est elle, sous le couvert d'une ONG locale, qui se charge de trouver des familles pour accueillir les participants et de trouver du travail à ceux-ci. Bernadette veille également au bon déroulement du séjour, fournir des vélos, planifier des sorties, les jours de congé, gérer les finances. Pour participer à ce voyage solidaire de 49 jours, les participants ont déboursé 5 870 $ chacun, montant qui couvre à peu près toutes leurs dépenses. Les familles d'accueil reçoivent une indemnité pour héberger et nourrir les volontaires. Micheline, Daniel, Claude et Yves ne vivent pas dans des huttes au sol en terre battue, loin s'en faut. Les familles qui les accueillent font partie de la classe moyenne et vivent dans des grandes et confortables maisons dans un quartier de Saaba. Sollicité pour accueillir un volontaire québécois, si Denis, qui vit seul avec ses garçons de 14 et 10 ans, n'a pas hésité. C'est l'occasion d'échanger des idées. Yves me parle du Canada, moi je lui parle du Burkina Faso. Il s'est bien adapté, je n'ai rien changé dans mes façons de faire et de cuisiner. Je voulais lui montrer comment on mange en Afrique, c'est vraiment l'invité parfait. Il va nous manquer, dit si Denis. Les fins de semaine, ainsi que durant les 4 jours consécutifs au milieu de leur séjour, les 4 Québécois découvrent Ouagadougou, la capitale. Ensemble, ils sont aussi partis pour un périple dans le sud-ouest du pays, où ils ont visité une réserve animalière, eu une audience avec un chef coutumier et visité les ruines de l'Oropéni, le seul site historique de Burkina Faso, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est un moyen de voir le pays et de découvrir d'autres régions que celles où nous séjournons. C'est aussi un moyen de nous retrouver entre membres du groupe et de discuter de nos expériences personnelles, raconte-t-il. La partie vacances de mon séjour est celle qui m'a apporté la plus grande surprise. Je n'avais pas imaginé que 4 coopérants ne se connaissant pas à l'avance pouvaient aussi bien s'entendre pour voyager ensemble, dit Micheline. Que retiennent-ils de cette expérience de voyage solidaire ? Daniel et Yves savaient déjà à quoi s'en tenir, ayant déjà séjourné dans des conditions similaires, lui au Sénégal, elle en Albanie. « Je considère que j'ai reçu plus que j'ai donné », estime Yves. « J'ai travaillé pour un employeur qui engageait des immigrés », dit Claude. « Par ce voyage, je voulais vivre l'envers de la médaille. Mes attentes sont satisfaites. J'ai rencontré des gens très accueillants et très sociables. Les Burkinabés font preuve d'une grande fierté et d'un esprit d'entraide. » Les Québécois sont toujours dans l'organisation et la planification de toutes les facettes de leur vie. Ce séjour m'aura appris à profiter un peu plus de l'instant présent. De plus, les Burkinabés sont très respectueux de leurs racines et de leurs ancêtres. Au Québec, on oublie parfois nos racines. Je crois que je vais renouer avec les miennes, dit Micheline. Ben voilà, c'était un aperçu de voyages différents pour les personnes de 50 ans et plus, organisé par le Cégep Marie-Victorin de Montréal. L'article était écrit par Paul Simier dans la revue Virage, la revue de la FADOC, de l'automne 2014.
Sincèrement malheureux. Aujourd'hui, je réalise l'ampleur de mes bêtises. Depuis, j'ai l'âme en peine. Je vois combien je t'aime. Oui, je t'aime.
Ben, comme vous l'avez entendu, c'était « Donne-moi ma chance » avec qui? Lisa Leblanc et Patrick Bourgeois du groupe les bébés. Bon, alors, je plonge dans la revue Plus qu'épaisse, annuelle 2014, numéro 41, la revue fabriquée incognito qui s'appelle Urbania. Et c'est... Oui, on va parler des choses qui sont anonymes. Par exemple, faites attention, hein, si vous travaillez chez Walmart, Target ou dans les grandes surfaces, comme ça, il peut y avoir un employé qui travaille pour surveiller les employés. On ne sait jamais. Espion demandé, rangée 6. Cette histoire pourrait se passer au Walmart ou au Target ou dans un Zellers, si ça existait encore. Vous ne le saurez pas. Ce que vous saurez, en revanche, c'est l'histoire d'Émile, passé de planton à espion avec une mission aussi précise que secrète. Un récit tissé de mensonges dans l'angle mort des caméras d'un magasin à grande surface. Le texte est de Émile Jutras Laframboise. Je m'étais juré de ne jamais en parler, jamais. Pas même sous la torture, pas même à ma femme. Mais comme je n'ai jamais su tenir une promesse, je vais vous le raconter quand même. Agent double, taupe, espion, voilà de quoi il s'agit. Je suis devenu par hasard, au gré d'un printemps plein d'horizons, à cette époque glorieuse où l'on pouvait fumer dans un avion et où on osait encore se lécher les doigts après avoir manipulé du poulet cru. J'avais 20 ans, je travaillais alors comme simple agent de sécurité la nuit, le cul dans une guérite en bois, surveiller un chantier de construction désert. À lire Boris Vian aussi. Le boulot étudiant rêvé. Mon patron était un brave homme, retraité de la police fédérale et grand amateur de sport équestre, et de jupons, bien sûr. Un point comme un majeur, d'ailleurs. On discutait donc femelle, lui au passé et moi au présent. On en est devenu proche, presque intime, et de là est venue l'offre. L'agence avait, en plus du département de sécurité dont je faisais partie, un secteur d'enquête en tout genre, de la filature à l'installation de caméras cachées selon les demandes du client. Le patron m'a fait venir dans son bureau pour me proposer un truc. Il s'agit de te faire passer pour un employé chez l'un de nos clients, de t'y installer comme chez toi, de faire ta place comme un type régulier pour découvrir la source d'une problématique particulière et dans ce cas-ci le vol, et d'en rapporter les informations pertinentes, m'a-t-il expliqué. Une infiltration? J'ai hésité, en silence. C'était comme prendre une tarentule pour la première fois. Un truc fascinant et effrayant à la fois. Et voici le salaire qu'il a ajouté. Oh, et ça, c'est sans compter toutes les minettes qui travaillent aux caisses. Et le patron a mis toute la gomme. Il voulait que j'accepte. Et j'ai accepté. Fausse adresse résidentielle, que j'ai apprise par cœur, un lieu fictif utilisé par l'agence. Faux curriculum où on m'a inventé un passé professionnel en entrepôt, où on a effacé toute trace postsecondaire et où on m'a attribué un permis de conduire pour chariot d'élévateur. Eh bien, je me suis senti plongé dans quelque chose d'irréel, dans un mauvais scénario d'espionnage sur fond de guerre froide, à espérer me faire prendre dans les filets d'une sulfureuse russe nommée Ivanka. Quand je rencontre le client, le directeur régional d'une chaîne de magasins à grande surface, il m'expose le pourquoi de la patente, soit des vols inexpliqués, et me montre la photo d'un employé en charge de la réception. On le soupçonne d'être un acteur important dans les disparitions des derniers mois, toujours des produits de valeur, informatiques ou électroniques. Personne, à part le directeur et la bonne dame des ressources humaines, ne sera au courant d'opérations. Je deviens un fantôme. Puis, le grand saut. J'entre en scène un lundi matin, un moi nouveau, construit de toutes pièces, jovial et séduisant, liquide et insaisissable. Showtime! Le magasin est énorme, avec des allées longues comme ça, séparées en différents rayons. Je me présente, je suis le petit nouveau. Les gens m'accueillent. Enchanté, tu vas travailler juste ici, me dit le superviseur de plancher. Tu vas placer des produits en tablette, dans l'électronique et aider à déplacer de la marchandise à l'arrière selon les besoins de l'entrepôt. Viens avec moi, je vais te présenter au gars à qui tu auras affaire. Et dans l'arrière-boutique, je découvre un monde aussi vaste qu'un grand parc. Un parc de boîtes, du plancher jusqu'au plafond, petites et grandes, sur palette ou en simple pile. Un endroit froid, comme le gars qui en a la charge, celui de la photo, ma cible. Et ce sera plus difficile que prévu. Joe, qu'il s'appelle. Jonathan, en fait. un petit être méprisable, aussi frisé qu'arrogant, je ne l'aime pas d'emblée et c'est réciproque, ça se sent gros comme un festival de montgolfière. C'est mal parti vu que l'objectif premier est de devenir son ami. J'ai 6 mois pour m'acoquiner avec lui, pour créer un véritable lien humain avec des retailles de carton. Un truc ardu qui va exiger que je mente, que je joue la comédie du Molière, comme je le fais si bien dans les bars, dans le fond, au nom de ma vie sexuelle. OK, ça devrait aller. Et finalement, ce que nous allons apprendre, c'est qu'il va se faire ami avec ce Joe, grâce à une jolie petite Hélène qui travaille. Alors, et là, ils vont devenir amis. Et un jour, Joe, qu'est-ce qu'il va faire? Le mardi suivant, Joe me fait venir dans l'entrepôt et me déballe sa méthode de travail. Il m'explique l'horaire des livraisons en m'indiquant celles qui contiennent des objets intéressants. Ensuite, il me montre les angles morts des caméras de surveillance, juste ici et un peu par là. Puis il m'explique comment il ouvre la boîte de l'objet convoité, la replie et la met au compacteur dans un tas de carton brun sans que ça paraisse. Oh là 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 là! Alors, en après-midi, Joe a l'appareil, j'appelle le patron pour l'informer. Le plan est le suivant, on sort du magasin en même temps, comme d'habitude, et on se fait arrêter sur place par 2 agents. Coupables tous les deux, bien sûr, question que Joe ne se doute de rien. Alors voilà, ça existe dans les grands magasins. À ceux qui travaillent là, faites attention, on ne sait jamais. C'était dans la revue Urbania.
Alors, quelques brèves. Ouais. Des douleurs nuisent à votre sommeil. Trouvez la position idéale selon le problème qui vous afflige. Si vous avez mal au dos, vous mettez un oreiller sous la tête et un sous les genoux pour garder la colonne vertébrale alignée et respecter la courbe du bas du dos. Ou sur le côté, les genoux légèrement pliés et un oreiller entre les jambes. Et si vous avez mal au cou, sur le dos, avec un coussin pour le cou adapté à sa courbe et un oreiller plat sous la tête. Ou sur le côté, avec un oreiller préformé, c'est-à-dire plus épais sous le cou que sous la tête, pour garder la colonne vertébrale droite.
Oui. Alors moi, je suis dans la revue Urbania. Il y a des petites annonces, vous savez, sur Kijiji. Alors ici, rechercher famille d'accueil. Bonjour, je m'appelle Elle. J'ai 17 ans. Je recherche une famille d'accueil ou un couple au grand cœur. Je suis à la recherche d'une personne qui a besoin d'amour et qui aimerait en recevoir. Je suis un jeune serviable, gentil et respectueux. Je vous remercie.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bon, alors saviez-vous qu'on pouvait disparaître pour 46 000 $ par mois?
Non.
Eh bien,
non.
Je vais vous en apprendre toute une, comme je l'ai appris moi-même. Tout sacré là et disparaître dans la brume, loin des dettes, des stalkers ou de Facebook, c'est possible grâce à une personne seulement qui fait ça. Oh, oh! Monsieur Frank M. Ahern, est-ce que c'est le vrai nom? Dont le travail consiste à orchestrer de petites et de grandes disparitions. On l'a rencontré pour une étude de cas fictive. Le texte est de Claire Richard. Nous sommes dans la revue Urbania, toujours. Donc, disons que je veux disparaître. Par quoi on commence? Ben, d'abord, on va parler de vos motivations. Disons alors que je suis très, très motivé. Bon, alors, il faut qu'on étudie ce qui vous convient le mieux parce que j'ai 2 types de clients. Ceux que je dois faire passer d'un endroit A à un endroit B et ceux pour qui je dois seulement effacer des données sur Internet. De véritables disparitions physiques, je ne traite ça que quelques fois par an. Le gros de mon travail, c'est la manipulation d'informations numériques. Et qu'est-ce qui pousse vos clients à vouloir s'évaporer? Il y a 3 sortes de raisons. Quelqu'un qui cherche à les tuer, oui, c'est une bonne raison, un ex-mari, une ex-femme, un partenaire d'affaires, ils ont beaucoup d'argent, désirent tout quitter et aller où personne ne va les trouver, ou à l'inverse, ils ont tout perdu et décidé d'effacer toutes leurs traces. Ça se résume à la violence et à l'argent. Les gens s'adressent à moi quand ils n'ont plus d'autres solutions. On ne débourse quand même pas 46 000 $ par mois pour mes services si on n'est pas désespéré. Toute une somme, hein? Ben justement, c'est pas un peu cher? Ben, ça peut monter à plus de 100 000 $ par mois. Hey, bel job! Ça inclut tous mes déplacements. Ben, cependant, chaque fois que j'accepte un nouveau contrat, je m'installe dans une ville différente afin de réduire mon empreinte numérique. En plus, je travaille seul, je n'ai pas d'attache non plus, ce qui protège la confidentialité de mon client. C'est le prix à payer pour que son secret vive et meure avec moi. Est-ce que vous me prendriez comme cliente? Bah, à condition que vous me disiez tout. De toute façon, si vous me mentez, je pars et je garde l'argent. Ça finit là. Vous devez aussi avoir un emploi flexible. Si vous êtes propriétaire d'un café ou d'un magasin, par exemple, c'est pas mal plus compliqué. Enfin, il faut que je vous aime bien. Si je ne vous sens pas, je ne vais pas vous aider. OK. Alors, je souhaite réellement disparaître. J'ai réuni la somme de 46 000 $ et vous me faites confiance. Qu'est-ce qui se passe rendu là? Alors, je commence par chercher les informations qui existent sur vous, hors ligne et en ligne. Puis, je vous demande de modifier légèrement votre nom, votre date de naissance, vos coordonnées. Vous allez, par exemple, contacter votre fournisseur téléphonique et lui signaler qu'il n'y a pas d'initial dans votre nom. Frank M. Ahern, par exemple. Quelques jours plus tard, vous le rappelez. Hey, il manque mon initial. L'orthographe exacte est Frank D. Ahern. Quels que soient les identifiants, on les distord à peine. Mais surtout, la clé de la disparition, c'est de garder occupés ceux qui vous cherchent ou qui vous chercheront. Si vous vivez à Montréal, je vous fais appeler des agents immobiliers à Paris. J'envoie vos cartes de crédit à un contact qui s'y trouve. Il va alors s'en servir dans des magasins, des hôtels. Je crée une page Facebook de vous en France avec des photos prises là-bas. J'y fais envoyer vos factures, etc., etc. Et quand vient le moment de disparaître, vous avez l'air d'être parti à Paris, mais on vous installe à Londres. Ensuite, je martèle la règle numéro 1, ne pas communiquer bêtement. N'appelez pas votre mère d'un appareil qu'on peut pister. Ne lui envoyez pas de courriel depuis votre domicile et n'allez pas sur les réseaux sociaux. Enfin, vous devrez vous réinventer. Si vous aimiez le patin à glace, eh bien, arrêtez le patin à glace. Vous ne pouvez pas être à la même personne là où vous recommencez votre vie, sinon ils vous retrouveront. Pas si vous existez comme entité virtuelle, c'est-à-dire en n'étant jamais connecté à la technologie que vous utilisez. Mettons que vous achetez un téléphone prépayé, que vous vous en servez dans des lieux publics et le jetez à la fin de la journée. Vous avez laissé des traces partout, la caméra du magasin, le GPS dans l'appareil lui-même, les caméras à l'extérieur. Et pour être une entité virtuelle, demandez à un jeune dans la rue d'en acheter un. Utilisez-le là où il n'y a ni caméra ni surveillance avant de détruire. On ne pourra pas vous relier à lui puisque c'est le garçon qui apparaît sur les renseignements et les enregistrements. Il n'y aura comme trace qu'une localisation GPS et une liste d'appels. On peut avoir des pages de renseignements sur un individu sans être capable de le localiser. Ça prend combien de temps pour faire disparaître quelqu'un? Une minute. Eh bien, plus vous êtes riche, plus c'est long. Alors, ceux qui n'ont pas grand-chose peuvent y arriver en 6 semaines. Ce n'était pas une minute. Alors, ça se complique s'ils ont des enfants. Ils doivent en avoir la garde exclusive. Ensuite, il faut les cacher dans le système scolaire en changeant leur nom. Un des cas les plus difficiles que j'ai eu à traiter a été celui d'une femme dont le mari était un dangereux criminel. Il fallait scolariser le garçon après leur fuite. On a dû convaincre la nouvelle école de modifier légèrement son nom de famille jusqu'à ce qu'il ait son diplôme pour que son père ne le retrouve pas. Et ça a pris plusieurs mois. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'un de vos clients soit retrouvé? Non. Par contre, je continue à vérifier les infos sur Internet et je peux travailler des mois pour vous donner l'air d'habiter en Belgique et quelqu'un peut, dans la journée, tweeter qu'il vous a croisé à Paris. J'ai retrouvé des gens de la façon la plus improbable qui soit, juste à cause d'un post de blog. Chaque matin, je cherche le nom de certains clients sur le web pour vérifier qu'il n'y a pas de nouveaux éléments en ligne. Si c'est le cas, je recommence le processus de manipulation numérique. Eh bien, c'est quelque chose. Voilà. Bon, alors, nous poursuivons. Nous y allons dans, cette fois-ci dans la revue Bel Air, pardon, Bel Air, mais presque. Hein. C'est la revue Virage
pour oui, les la gens revue de, la 50, FADOC.
De 50 ans et plus. Oui, et nous allons parler de la soixantaine. Oh là là là. Les tendances pour le meilleur et pour le pire. 6 visages de la jeune soixantaine par Sophie Gagnon. Alors, l'événement frappe moins l'imaginaire que l'arrivée dans la cinquantaine. Fêter ses 60 ans en 2014 n'en demeure pas moins une étape significative que l'on franchit mi-figue, mi-raisin en se disant que vieillir est la seule façon de rester en vie. Et que cet anniversaire... Oui, bon, on n'y échappe pas. Hein. Ah. Et que cet anniversaire charnière frappe aussi plusieurs personnalités cette année, dont Oprah Winfrey, John Travolta, Francis Cabrel et Thomas Mulcair, pour ne nommer que ceux-là. À la retraite, ou toujours sur le marché du travail, seul ou en couple, avec ou sans petits-enfants, à aimer à la folie, plus ou moins pris en sandwich entre leurs enfants pas tout à fait autonomes et leurs parents âgés, les jeunes sexagénaires n'ont pas un profil homogène, et en voici 6 visages. Adrena Lynn, quel drôle de nom, à toute rédactrice en chef, tout honneur, laissons Lynn Rémillard parler de ce passage vécu, somme toute en douceur, le printemps dernier. Il y a une nette différence entre comment on est à 60 ans et les préjugés véhiculés sur nous. Comme société, il faut s'attaquer à ces stéréotypes. S'il est plus difficile de dire que l'âge n'a pas d'importance sur le plan de la carrière, cette étape comporte des défis stimulants aux yeux de cette femme au dynamisme hors du commun. Il faut savoir se servir de notre expérience sans arrêter de développer de nouvelles compétences. Veuve depuis 17 ans, elle aimerait bien vieillir, avec quelqu'un, mais elle n'est plus d'âge du couple à tout prix, ni de grands compromis d'ailleurs, et peu importe la sphère de sa vie. Nouvellement grand-mère, elle adore le petit Jason, mais sa carrière très prenante fait en sorte que sa vie ne tourne pas uniquement autour de ce petit ange. Toutefois, son téléphone intelligent est rempli de photos de lui. Ensuite, Daniel, une retraite fraise et érable. Tiens. Daniel, lui, avoue avoir pris un coup de vieux à son départ à la retraite après 32 ans de service pour le gouvernement fédéral. Serein financièrement grâce à la Cadillac des fonds de retraite, le chanceux, et il lui manquait toutefois des défis. Puis, 2 projets ont germé. Dans la continuité de sa profession d'agronome, la culture de fraises d'automne avec son frère agriculteur et l'apprentissage du métier de maître sucrier chez sa cousine. Dans les 2 cas, il est actif dans la nature et produit quelque chose de délicieux. Son besoin de se sentir utile est par ailleurs comblé par son rôle de proche aidant auprès de ses parents. J'aime m'occuper d'eux et j'ai le temps de le faire. Et plus tard, j'envisage même de faire du bénévolat à la popote roulante. De plus, il s'entraîne, a même couru un demi-marathon, suit des cours à l'université du 3e âge, fait des voyages avec sa conjointe, etc., etc. En somme, il a apprivoisé la retraite. Linda Gaga. Ah bon? À 50 ans, on veut réaliser des rêves, posséder des choses. À 60 ans, on se rend compte que tout ça n'a pas de sens sans l'essentiel, la santé. Je consacre donc beaucoup d'énergie à me garder en santé et en forme, en plus de voyager, de suivre des cours, etc., etc., affirme pour sa part Linda. Retraitée de l'enseignement, elle partage son temps entre les coups de main à ses 2 fils et les visites à sa mère âgée, tout en se bloquant des journées à elle, sans quoi la vie se charge rapidement de lui envoyer des signaux de danger d'un tel déséquilibre. Et si le déclin fait son œuvre, le tout est très largement compensé par les joies que lui procure Gabriel, son premier petit-fils, dont elle s'avoue complètement gaga. Sa présence me comble d'affection. Il a réveillé quelque chose de merveilleux en moi, le bonheur de me sentir extraordinaire juste en étant moi-même. Jean dit le travail différemment. À 61 ans, Jean affirme que l'idée de la retraite ne lui a jamais traversé l'esprit. Mais il travaille différemment maintenant, à raison de 4 jours par semaine, tant que la passion sera là. Je vais continuer. Même chose pour le hockey. tant que je serai compétitif, je n'accrocherai pas mes patins. Ce temps libéré est consacré à découvrir de nouveaux restaurants, voir des matchs du Canadien dont il est un fan inconditionnel, savourer la vie à deux tout en étant très disponible pour la portion de sa famille qui est en croissance, ses deux fils et son petit-fils. La décroissance est aussi partie du quotidien de ce grand bénévole devenu proche aidant auprès de son père, 92 ans, et de sa mère, un phénomène, à 87 ans, dont il souhaite avoir hérité du gène de l'énergie. Eh bien, Lucie, elle, n'a pas les moyens d'arrêter. Copropriétaire d'un restaurant avec son conjoint, Lucie n'a pas les moyens de prendre sa retraite ni même de diminuer les heures consacrées à gérer l'entreprise et à servir les clients. À deux, on gagne assez pour vivre, mais pas assez pour économiser en vue de nos vieux jours ni pour prendre de longues vacances. Nous sommes soudés à notre commerce qui, sinon, serait voué à l'échec. Et au fil des ans, quelques coups durs sont venus gâter la sauce, forçant le couple à mener une vie modeste. Mais Lucie ne se dit pas inquiète pour l'avenir. Nous nous nourrissons bien, nous sommes actifs et nous exerçons un métier que nous aimons. Alors, il n'y a pas de problème pourvu que la santé tienne le coup. Et Jacques dit, ben, vieillir avec cœur. Le passage à 60 ans n'a pas été difficile. Alors voilà, c'était six visages de la jeune soixantaine.
Alors, c'était Zaz qui chantait aux Champs-Élysées. Et ça fait le lien avec l'article que je vais vous lire. Est-il plus facile de conduire sur les Champs-Élysées que sur les routes du Québec en ce moment? Alors, les progrès de l'électronique se traduisent par la multiplication de dispositifs censés faciliter la tâche des conducteurs.
Oui, mais il y a besoin d'avoir tout un dispositif aujourd'hui.
Absolument. Alors, chaque année, 1 million de personnes perdent la vie sur les routes du monde. Afin de réduire ce sombre bilan, les Nations Unies se sont engagées en 2011 en faveur d'une décennie de la sécurité routière, une initiative co-signée par le Canada. Pour y arriver, les autorités comptent entre autres sur l'industrie automobile, dont les progrès au cours des 40 dernières années, notamment sur le plan de l'absorption des chocs, sont en partie responsables du succès de la politique routière de Transport Canada. Depuis le début des années 70, le nombre de morts sur les routes du pays est passé de 6 000 environ à 2 000 par année. Au Québec, après avoir atteint un sommet en 1973 avec 2 209 décès, la mortalité descendait sous la barre des 500 en 2012. L'arme de choix de l'industrie pour continuer d'améliorer la sécurité, ce sont des dispositifs électroniques d'aide à la conduite, comme les systèmes de surveillance des angles morts ou des caméras de marche arrière. Grâce à la technologie, les véhicules peuvent désormais voir ce que l'œil humain distingue à peine ou commencer à freiner avant même que vous n'ayez mis le pied sur la pédale. D'abord offerts exclusivement sur des modèles de luxe, ces dispositifs se démocratisent et sont maintenant disponibles aussi en milieu de gamme. Certains deviennent même obligatoires si les autorités estiment qu'ils peuvent contribuer à diminuer le nombre d'accidents. Par exemple, depuis 2011, tous les véhicules vendus au pays possèdent le contrôle électronique de stabilité qui aide le conducteur à maintenir sa trajectoire en cas de manœuvre brusque ou sur une chaussée glissante. Aux États-Unis, dès 2018, tous les véhicules auront une caméra de marche arrière afin de diminuer les décès et blessures provoqués par les manœuvres de recul. Mais tous ces dispositifs n'ont pas la même efficacité. Certains apportent davantage de confort que de sécurité. D'autres peuvent même provoquer des situations à risque. Et il faut les considérer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des aides à la conduite, pas des pilotes automatiques. La vigilance du conducteur demeure au centre de toute notion de sécurité routière, souligne Jess Caron, coordonnateur des essais routiers pour CAA Québec. Alors la revue Protégez-vous fait le tri parmi ces dispositifs les plus courants qui aident et qui vous aideront pour l'achat de votre prochain véhicule, par exemple. Alors les dispositifs les plus utiles. Le premier, c'est un système de surveillance des angles morts. Ce dispositif signale la présence d'un véhicule dans vos angles morts, c'est-à-dire dans les zones sur les flancs de la voiture qui ne sont pas visibles dans les rétroviseurs. Quand les caméras ou les radars détectent une présence, un voyant lumineux s'allume dans le rétroviseur du côté concerné. Si vous activez les clignotants pour signaler un changement de voie, une alerte sonore ou une vibration dans le volant vous avertit du danger. Deuxième système, caméra de vision nocturne, phare adaptatif et phare de virage. Le dispositif de vision nocturne utilise des caméras infrarouges sensibles à la chaleur qui transmettent leurs images sur un écran situé sur le tableau de bord. Le passage d'un piéton ou d'un animal dans le champ des caméras provoque un affichage sur l'écran et déclenche une alerte. Ce type de système voit plus loin que l'œil humain, notamment dans la brume. Deuxième chose, les phares adaptatifs qui pivotent dans les courbes, pointent vers le haut dans les pentes et vers le bas dans les montées, afin de suivre le dessin de la route. Les phares additionnels de virage, positionnés le plus souvent à l'extrémité des blocs optiques, s'allument automatiquement quand vous activez les clignotants ou tournez le volant. Ils permettent par exemple de mieux voir les piétons engagés dans une intersection. Autre système dispositif utile, le système d'assistance au freinage d'urgence et d'alerte de collision frontale. Dans les années 1970, l'industrie a misé sur l'ABS, ce système anti-blocage des roues pour prévenir les collisions. Même si ce dispositif est désormais présent dans la majorité des voitures, ses résultats ont été mitigés, possiblement parce que les conducteurs n'osent pas freiner au maximum, craignant de déraper. Ainsi, certains constructeurs ont eu l'idée d'équiper leurs véhicules de systèmes d'assistance au freinage d'urgence qui augmentent la pression sur la pédale de frein en situation d'urgence. Mais le vrai saut en avant vient du freinage intelligent, estime Giorgini. Grâce à une caméra, ce système freine même sans votre intervention s'il repère un obstacle ou en cas de fort ralentissement. Il peut ainsi pallier une distraction ou un malaise. Pour Jess Caron, les systèmes de freinage intelligent ont réellement le potentiel de sauver des vies et d'éviter des blessures. Autre système, la caméra de marche arrière. Environ 300 personnes meurent chaque année aux États-Unis à cause de manœuvres de recul mal exécutées. Pour réduire les risques, les autorités américaines misent sur la caméra de marche arrière qui sera obligatoire sur tous les véhicules neufs dès 2018. Une règle qui profitera au Canada où 25 personnes meurent annuellement pour la même raison, puisque les constructeurs vendent la plupart du temps les mêmes modèles ici qu'aux États-Unis. Alors, il y a encore d'autres systèmes, par exemple le détecteur de gonflage des pneus, le système d'aide au stationnement, et puis d'autres à utiliser avec prudence, comme la console d'infodivertissement au volant qui peut créer des distractions, et le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, c'était quelques éléments pour une conduite assistée, tiré d'un article de Guillaume Dayan dans la revue Protégez-vous d'octobre 2014.
Tapis dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose.
Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi? Pas de doute lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute sous le rayon de la grande ourse en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte.
Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis. Mais tu sais quoi? Tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas?
Alors, c'était Karim Ouellet avec « Donne-moi ma chance ». Alors, quelques brèves. Eh bien, dès 2015, tous les véhicules vendus en Europe pourront être équipés d'un système qui alerte automatiquement les secours en cas de collision.
Ah, oui?
Et leur indique où vous vous trouvez. Une mesure qui pourrait faire gagner de précieuses minutes aux secouristes. Avec la géographie et le climat du Québec, un tel système serait très utile.
Oui, oui, oui. Eh bien, dis donc, mais quelle sorte de collision? Petite, grosse, c'est ça que je ne sais pas. Alors, moi, écoutez, c'est très important de savoir ça parce que vous allez magasiner un petit guide des règles applicables en magasin par l'Office de la protection du consommateur. Alors, Joanne fait des achats. Elle s'interroge sur les règles applicables en magasin. Le commerçant a-t-il le droit de faire ceci, cela? Et suis-je en droit d'exiger cela? Alors, suivons-la dans son magasinage. Joanne se rend d'abord dans un magasin à grande surface pour acheter un parfum à sa fille. Il coûte 60 $. Le prix est indiqué sur la tablette. La caisse, elle, cependant, affiche 67 $. Ai-je droit à une quelconque compensation? Se demande Joanne. Joanne devrait payer seulement 50 $.
puisque les commerçants qui choisissent d'afficher le prix, les prix des biens sur les tablettes et d'utiliser des lecteurs optiques sont tenus d'appliquer la politique d'exactitude des prix qui prévoit un dédommagement si le prix réclamé à la caisse est plus élevé que le prix indiqué en magasin. Alors, comme le parfum coûte plus de 10 $, le commerçant doit le vendre au prix affiché sur la tablette réduit de 10 $. Et si l'article avait coûté 10 $ ou moins, il aurait dû le remettre gratuitement à Joanne. Intéressant. Alors, maintenant, un échange. Joanne s'arrête dans un magasin de jeux vidéo. Le commerçant échangera le jeu contre un autre si son petit-fils Elliot le possède déjà, n'est-ce pas? C'est fort probable, particulièrement pendant la période qu'on vient de passer, la période des fêtes. Et par contre, la loi n'oblige pas les commerçants à rembourser un client. Alors voilà, c'était tout pour nous. Merci d'avoir été là. Et on vous dit, Franceline et moi, Serge, au revoir.
Au revoir.
Oui.